Bah, de toute façon, je veux dire un truc, entre le directeur supérieur et le manard, il y a des échelons aussi. Ah, bon, il y a le même échelon d'exploitation, pareil, parce que l'ouvrier qui est en bas chez Berlier, il est exploité par 150 personnes avant d'arriver en haut. Alors, de toute manière, l'exploitation, elle n'est pas exclusive à la prostitution. Ouais. L'exploitation, c'est une exploitation de la société, c'est pas une exploitation de la prostitution. Moi, de toute manière, je dénonce complètement ce matraquage de la fille sous prétexte que c'est pour atteindre la proxénète, c'est pas vrai. L'État se donne bonne conscience pour matraquer les prostituées, de dire que c'est pour avoir les proxénètes.
À Lyon, une centaine de travailleuses du sexe occupent une église pour protester contre la violence d'État et faire valoir leurs droits. La vidéaste Carole Roussopoulos propose de les filmer et de retransmettre leurs paroles à la population en plaçant des petits téléviseurs sur la façade de l'église, dans ce qui ressemble à une installation d'art vidéo, mais a surtout vocation à faire entendre les voix de celles qu'on n'écoute jamais. Cela se passe il y a 50 ans, en juin 1975, à quelques pas de la salle de bain. Le film « Les prostituées de Lyon parlent » est le point de départ de l'exposition et du programme organisé par Julie Portier et Camille Richer sous le titre « Ça commence souvent par des problèmes ». De mars à avril 2025, nous y invitons des chercheuses, artistes et personnes concernées afin de mettre à jour cette histoire, mais aussi de prendre connaissance des luttes actuelles des TDS et de se familiariser avec la pensée féministe pute. À partir du 2 juin, premier jour de l'occupation de Saint-Nizier, qui est aussi la journée internationale des droits des TDS, Du Radio diffuse les enregistrements de quelques-uns de ces rendez-vous. En introduction, nous avons entendu un extrait du film de Carole Roussopoulos, Les prostituées de Lyon parlent. À suivre, la discussion orchestrée par Blanche Bloin, designeuse, avec Cybèle L'Espérance, TDS militante et chercheuse, et le père Christian Delorme qui était présent à Saint-Nizier pendant l'occupation de 1975. C'était le 11 avril 2025 à la salle de bain.
Je t'en prie, assieds-toi.
Ah, je mets là en plus.
Oui. On avait prévu la chaise près de la fin.
En plus.
Je suis
en plus. On se quitte plus.
On se quitte plus. C'est mon poids qui...
On se voit souvent. Mais j'avais dit que je ne viendrais pas, donc...
Ben oui, c'est une belle, c'est une belle surprise.
C'est très intimidant, mais merci à tous d'être là. En tout cas, c'est trop bien. Et oui, du coup, j'étais au Mans, je parlais du petit film que j'ai fait de la table ronde de lundi dernier, qui permet, du coup, mon idée, c'est beaucoup de diffuser aussi. Parce que c'est super chouette de moi, comme je disais, ce qu'on me raconte et de moi recevoir. Mais j'ai envie de transmettre, du coup, d'utiliser ces clés, comme je disais, que j'ai pu avoir aux Beaux-Arts pour transmettre au maximum. Et ce film permet de se transmettre et témoin en fait, de ce qu'on a pu apprendre et ce qu'on peut continuer à apprendre ensemble. Comme introduction aussi, je voulais poursuivre en disant que quand même, le 2 juin est devenu la Journée internationale des travailleuses du sexe, grâce à cette révolte de 75. Je tenais à l'introduire au début, parce qu'en fait, quand moi je faisais mes recherches, je le trouvais pas sur Internet. Genre, je tapais 2 juin, journée 2, il y avait rien qui se mettait. Et ça me mettait un peu en boule. Enfin, je me disais, mais comment ça? Pourtant, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça date pas d'hier que cette journée, elle est arrivée. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et du coup, juste pour vous montrer à quel point c'est un peu compliqué de trouver, et je crois que je l'avais trouvé en plus dans un article de Lilian Mathieu, je pense que c'est comme ça que j'avais dû trouver la date en plus. Juste pour vous illustrer tout ça, je vais vous dire un peu ce qu'on trouve quand on met 2 juin fête 2 sur Safari, sur Internet. Donc, j'ai mis tout, hein. J'ai mis 2 juin, journée internationale 2, journée nationale 2, j'ai même mis fête du 2 juin, enfin j'ai essayé plein de petits synonymes quoi, pour essayer de trouver. On trouve quoi? Que depuis 2007, le 2 juin, c'est la journée mondiale pour un tourisme responsable. Donc ok, pourquoi pas. Depuis 2024, donc c'est récent, la journée mondiale des troubles et des conduites alimentaires. Ok. Et celle-là m'a fait doucement rire, parce qu'elle arrive encore une fois avant la journée des travailleuses du sexe. Hein. C'est la journée nationale du poulet rôti, le 2 juin. Comme ça, on est tous au courant et c'est super. Et notamment, j'ai chaviré un peu en faisant mes recherches sur les fêtes. Et c'est la Sainte Blandine, et je trouve qu'elle introduit bien. La Sainte Blandine, fêtée le 2 juin, je cite Hérodote, le média de l'histoire, est la martyre la plus connue de Français. C'est une jeune esclave qui faisait partie d'un groupe de 48 chrétiens arrêtés sous le règne de Marc Aurèle en raison de leur refus de participer au culte impérial. Et c'est une petite introduction, donc à 75.
Et à Lyon.
Et à Lyon.
Et à Lyon surtout. Alors elle n'était pas jeune, elle était vieille en réalité. Mais la légende a dit qu'elle était jeune.
Moi, je peux pas, je sais pas si je peux me permettre, mais en fait, dans les journées internationales en lien avec le TDS, il y a 4 journées qui sont reconnues par le mouvement mondial. Il y en a qu'une seule qui était vraiment beaucoup plus soulignée en France, c'était le 17 décembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, où on a eu des rassemblements, bah, place Satonnet d'ailleurs, de nombreuses années. Et la journée du 3 mars est la journée internationale des TDS, des travailleurs et travailleuses du sexe, tandis que le 2 juin est plutôt la journée internationale de lutte pour les droits. Mm-hmm. Alors je me permets de le dire parce que pour le 8 mars, il a fallu aussi qu'on rappelle aux gens qu'il y avait la lutte pour les droits. Du coup, le 3 mars, c'est la journée des TDS, et le 2 juin, c'est plutôt la journée internationale de lutte pour les droits. Et dans les dernières années, il y en a une autre qui s'est rajoutée, parce qu'on aime bien en avoir une par saison, une bonne raison de soit faire la fête, soit se pleurer dans les bras. Et c'est le 14 septembre, c'est la pute pride, la pride des TDS. Après, voilà, il y a divers degrés de célébration selon l'état des troupes et les derniers événements, les dernières mauvaises nouvelles que le mouvement militant reçoit. Voilà. Je voulais juste donner cette petite précision de la lutte pour les droits, étant donné que c'était vraiment une lutte pour les droits aussi, ici. Le 3 mars commémore un festival de travailleurs et travailleuses du sexe où il y a eu 25 000 personnes qui se sont participants à Calcutta, dans les années, je crois que c'était en 90.
Et je vais poursuivre en citant l'historienne et enseignante Lydie Montigny, qui a dit dans un podcast pour la mémoire, le passé est éloquent, il a des choses à dire. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, on va parler. Et nous aussi, on va avoir des choses à dire par rapport au passé. Et du coup, merci Christian, merci Ben d'être là.
Et on va... Je vais présenter rapidement ce qu'on est beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est bien de le dire quand même comme si personne ne savait rien.
Mais est-ce que vous voulez vous présenter? C'est peut-être plus sympa.
Merci. Du coup, Cybèle L'Espérance, c'était mon nom de travailleuse du sexe avant. Maintenant, j'ai changé de nom parce que j'ai pris un peu trop la parole, je pense. C'est plus facile pour moi à gérer, donc j'ai 3 identités. Je suis québécoise d'origine, je vis à Chambéry, donc c'est pas très loin, mais c'est pour ça que j'étais pas censée être ici ce soir, parce que c'est un peu compliqué les événements en soirée à Lyon. Je suis militante pour les droits des TDS depuis 2019, je suis travailleuse du sexe moi-même depuis 2012, donc j'ai commencé au Canada avant d'émigrer. Et j'ai milité au sein du STRAS, le syndicat du travail sexuel, dont j'ai été secrétaire générale et porte-parole ensuite pendant quelques années. Maintenant, j'ai créé une association qui s'appelle donc Tulia, dont les intérêts sont surtout le partage de connaissances. Et donc, on se retrouve à travailler sur l'archive par la force des choses, par les besoins de la communauté actuelle qui demande de comprendre ce qui s'est passé, de le vulgariser, de le mettre en parallèle avec les luttes d'aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée à travailler beaucoup plus sur ce sujet-là dans les derniers mois et donc créer cette chronologie aussi des événements de Saint-Nizier. Créer du matériel pour aider les gens à se former en tant que militants ou en tant qu'alliés sur le sujet, d'avoir des données précises, réelles, ancrées dans la réalité, fact-based science, comme on aime bien dire aux États-Unis.
Voilà. Et je précise, mais je vous invite vraiment à regarder ce site parce qu'il est quand même hyper complet. Et je sais que moi, j'aurais de tout mon cœur aimé le découvrir en faisant mes recherches. Et que là, il y a vraiment beaucoup d'étapes qui sont déjà mâchées, donc franchement, n'hésitez pas, parce que...
C'est pas le dixième de ce que je veux y mettre, mais oui.
Mais c'est très bien déjà.
Il y a déjà pas mal de choses.
Christian Delorme, moi, je suis prêtre catholique du diocèse de Lyon. Je suis un ancêtre ici, on n'est pas les seuls, je ne suis pas le seul. Mais content de voir plein de jeunes. Il se trouve que comme plein de gens qui ont eu 18 ans en mai 68, je me suis trouvé impliqué dans différents mouvements sociaux qui donnaient la parole aux gens qui jusque-là ne l'avaient pas. Et je me suis trouvé embarqué dans un certain nombre d'aventures, dont la révolte de Saint-Nizier. J'avais 25 ans, j'étais à la fois à l'époque président du mouvement pour une alternative non violente et j'étais membre du mouvement du Nid, qui était un mouvement de présence aux personnes dans la prostitution qui existe toujours mais qui a pas mal changé quand même par rapport à ce qu'il était. Voilà, donc j'ai vécu cette révolte de Saint-Dizier et puis un peu les suites. Après, j'ai été plus impliqué sur les terrains de l'immigration, des discriminations liées à l'origine. Donc j'ai moins suivi les questions de procédure tout en m'informant. Et puis, tous les 10 ans, régulièrement, on vient me chercher comme un des derniers. Voilà. Mais c'est la première année où on a l'occasion de se retrouver. Voilà.
Pour de même génération.
Et voilà, entre survivants.
Du coup, on peut rentrer dans le sujet de cette révolte de 75. C'est vrai que dans le film, si jamais je vous invite à le regarder, on va rentrer beaucoup plus en détail. Là, on a quand même parlé pendant un bon 3 heures. Du coup, on va vous épargner ça pour aujourd'hui. On va quand même aller un peu moins dans les détails de ce qu'on a pu raconter. Mais du coup, on va débuter un peu chronologiquement. Et ça, vous l'avez tous les deux énormément souligné aussi quand on s'est rencontrés. De quelle époque en fait était 75. C'est-à-dire qu'on est après mai 68. C'est une époque où beaucoup de femmes ont pris la parole, il y a eu beaucoup de manifestations. C'est pas une révolte qui arrive de rien. Et vous avez dit ces mots, il n'y a pas d'histoire sans préhistoire, que j'ai trouvé, enfin qui m'ont interloqué tout de suite et qui m'ont vraiment marqué. Parce que c'est le cas, il s'est passé pas mal de choses avant. Il n'y a pas juste, entre guillemets, eu des femmes qui sont rentrées au sein d'une église. Il y a eu plein de petites choses avant qui se sont passées et qui ont mené à cette révolte-là. Notamment, déjà, le contexte social qui était bien présent. Mais aussi, et Claude Jaget, dans son livre « La vie de putain », il en parle bien. Et il en parle de manière, en plus, assez précise. Moi, je me rappelle qu'il fait des descriptions assez précises. Mais de prostituées, par exemple, qui étaient assassinées. Il y en avait plusieurs. Donc, qui mettait un climat d'insécurité. Il y avait des PV aussi qui étaient mis à outrance envers les prostituées. Je vous laisserai rentrer dans les détails peut-être là-dessus. Et notamment en 72, il y a eu un grand scandale de policiers et d'hommes politiques qui ont été accusés de proxénétisme. Et ça, c'était un petit peu la goutte pour les prostituées, de policiers qui eux-mêmes mettent des PV, d'hommes politiques qui eux-mêmes votent les lois, et puis après, en fait, ce sont les proxénètes dans l'histoire. Donc ça a été aussi des gros marqueurs. Aussi avant, il y a eu pas mal d'assemblées, pas mal de rencontres. Un an avant, il y a eu une manifestation où elles ont été un petit peu moquées. Et du coup, c'était tout ce contexte-là où il fallait trouver quelque chose. Il fallait trouver un lieu dans lequel elles ne seraient pas délogées, dans lequel on puisse les entendre. Il fallait trouver un moyen qu'elles se fassent remarquer, qu'elles aient un peu de lumière pour qu'on puisse enfin les écouter et prendre un peu au sérieux ce qu'elles disaient. Voilà, si vous voulez, je vous laisserai compléter sur ce scandale de 72 et peut-être amener quelques détails là-dessus.
J'ai cru comprendre que c'était surtout qu'après, la police, le ministère de l'Intérieur voulait montrer qu'ils n'étaient pas laxistes et que donc ils ont intensifié la répression, fermé les hôtels. En fermant les hôtels, on fermait des lieux où les personnes pouvaient travailler à l'intérieur, étaient en sécurité. Et donc, ça venait exacerber cette vulnérabilité à l'insécurité. Et ils intensifiaient finalement la répression sur tout ce qui était visible. Mais forcément, ce qui était visible, c'était les gens qui ne pouvaient plus aller dans les hôtels non plus.
Oui, c'est ça.
C'est le contexte.
Alors, c'est toujours difficile de relire l'histoire parce que c'est aussi une époque où un certain nombre de gens qui appartiennent à la bonne société, on va dire les notables, sont des clients de la prostitution.
Et c'est toujours le cas.
Je ne veux pas outer un certain nombre de défunts maintenant, mais il y avait un certain nombre de responsables politiques lyonnais qui d'ailleurs se vantaient, qui étaient fiers. Il y avait des banquiers républicains, c'était encore l'époque des radicaux socialistes, même s'ils n'étaient ni radicaux ni socialistes à la fin, mais qui se vantaient d'avoir des conquêtes féminines. Et de fait, à Lyon, au début des années 70, enfin avant le scandale de 72, vous avez un certain nombre de lieux où s'exerce la prostitution, des clubs, je pense aux écuries du roi, parce que c'était parti de là, où vous aviez des hommes politiques qui s'y rendaient. Et puis vous aviez la brigade des mœurs, donc ceux qui étaient chargés de la gestion des personnes prostituées et qui abusaient de leur pouvoir parce qu'ils connaissaient bien les personnes et ils en abusaient beaucoup. Et puis à un moment donné, ce système tombe il y a une répression, des commissaires de police et des commissaires de haut rang. Il y avait le commissaire Colonna, le commissaire Tonneau, oui, les noms reviennent. On dit qu'en vieillissant, la mémoire ancienne revient. Et ces hommes vont se impliquer jusqu'au cou. Et puis il y a un député, Barcharet aussi, qui était une des figures politiques de la droite lyonnaise, gaulliste, hein, qui est impliqué. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la politique, c'est de dire on montre que l'État respecte la loi, donc une répression qui s'exerçait avec la fermeture d'un certain nombre d'hôtels, mais aussi contre les personnes prostituées qui ont été verbalisées à outrance jusqu'au risque d'aller en prison pour non-paiement des amendes.
Et on peut rajouter la dernière couche, c'est les redressements fiscaux. Parce que, voilà, en approchant de la date où s'est produite cette révolte, elles ont commencé à recevoir des redressements sur 4 années. Alors que jusque-là, je crois qu'il n'y avait pas trop ce type de... considérer la prostitution, les revenus de la prostitution comme faisant partie des revenus imposables. Et donc, sur 4 ans, on leur demandait des sommes qui ressemblent, qui en euros de nos jours, donneraient entre 50 et 200 000 euros de redressement fiscal.
Donc, pas mal de raisons donc, pour venir à ce qu'on a envie de les entendre, quoi. Aussi à rappeler le contexte de l'église de Saint-Nizier, parce que là en soi, la prostitution, nous la voit pas en centre-ville, mais à l'époque, elle était bel et bien présente. C'était même au cœur en fait du quartier de la prostitution à Lyon. La rue Mercière, si vous voyez, c'est la rue des restos là, bah, c'était une rue de prostitution totale en fait avant. Et moi, je sais qu'en faisant mes recherches, ça m'avait frappé de marcher dans cette rue. D'un coup, j'avais lu ça et puis je rentrais de l'école et je me disais, ah oui, mais en fait, j'habite à 2 minutes de cette rue-là. Et puis pour moi, c'était la petite rue des restaurants quand on est touriste et quand on vient à Lyon, quoi. Et il faut rappeler ça parce que c'est quand même assez important. Et ça dit aussi le pourquoi du comment l'église Saint-Nizier avait été choisie comme église de refuge pour les prostituées en 75. C'est éloquent là-dessus. Et après, on pourra en revenir, mais ça démontre aussi à quel point en 50 ans, ce qui est rien et beaucoup en même temps. Ben en fait, maintenant, les prostituées, elles ont été virées quelques années de Gerland. Enfin, c'est pas du tout la même constitution géographique qu'on va avoir. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on va revenir, mais plutôt dans l'après, mais qui questionne beaucoup de choses. Et du coup, ben, par rapport à 75, il y a une protection de l'Église, parce que c'était le père Brial qui était au mouvement du Nid.
Mais non, lui, il n'était pas au mouvement du Nid, mais ça fait rien.
C'est pas lui.
C'était le père Louis Blanc qui était au mouvement du Nid. Mais le père Béal était le curé de Saint-Nizier.
Oui.
Mais alors là aussi, c'est un tout autre contexte, puisqu'on est dans une France qui est encore majoritairement chrétienne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et les personnes qui sont dans la prostitution, les femmes en tout cas, qui très souvent ont des racines rurales pas très anciennes, sont en général assez pratiquantes. Mm-hmm. Enfin, elles ont une foi vive. Et parmi elles, beaucoup avaient l'habitude de venir à Saint-Nizier, puisque comme vous l'avez indiqué, Saint-Nizier était au cœur du quartier de la prostitution, à la rue Mercière, à la rue Tupin, etc. Et elles connaissaient très bien ce curé, qui était vraiment un homme très bon, très accueillant, très fraternel, qui ne jugeait pas. En plus, il y a toujours d'ailleurs à Saint-Nizier une chapelle dédiée à un certain Saint Expédite. Qui est un saint légendaire, mais qui est réputé être l'avocat de toutes les causes perdues, comme Sainte Rita à Paris. Et donc, beaucoup de femmes venaient faire leur dévotion à Saint Expédite. Voilà. C'est comme ça que les choses se sont... Et alors, c'est vrai, comme vous l'indiquez, c'est pour ça que moi, je dis attention, occupation, c'est pas vraiment une occupation, c'était plutôt un refuge. Parce que le curé était d'accord, le mouvement du Nid, qui était à l'époque un mouvement d'église lié à l'Action catholique ouvrière, était en soutien. Et l'archevêque de Lyon, qui était pourtant très conservateur, faisant confiance au mouvement du Nid, à ses prêtres, a dit, bah, puisque vous pensez qu'on doit les accueillir, on les accueille. Voilà. Et l'expulsion, le 10 juin, s'est faite sans qu'il y ait le feu vert des églises. Normalement, les pouvoirs publics doivent demander à l'affectataire du lieu l'autorisation d'entrer.
Ce qui s'est déjà passé, c'est que l'église, vous l'avez dit aussi, a déjà été...
Oui, alors c'est ça, c'est que c'était... Là aussi, je crois que toutes les luttes de cette manière se tiennent. On en a parlé beaucoup ce matin. C'est que c'est une époque donc, de prise de parole par toutes les minorités, les prisonniers, les migrants, les homosexuels.
Et il y a eu déjà à plusieurs reprises des grèves de la faim de migrants tunisiens sans papier dans des églises. Donc c'est ce modèle-là qui est repris un peu, sans qu'il y ait de grève de la faim pour autant.
Et il y avait aussi un bâtiment que vous nous avez raconté, qui est encore trace de la prostitution à Lyon, si vous voulez nous partager, parce que c'est assez...
Ah oui, alors ça c'est le croisement, on n'en a pas parlé ce matin, c'est le 29 rue Tupin, je vous invite à aller 29 rue Tupin, c'est pas très loin des Cordeliers, de Saint-Bonaventure. C'est un immeuble qui aujourd'hui apparaît comme un immeuble bourgeois où au chevet de l'immeuble il y a une librairie, mais si vous regardez l'arche d'entrée de cet immeuble, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des bouts de mosaïque qui restent et c'est pas habituel dans les immeubles bourgeois lyonnais. Et en fait ce lieu a été pendant des années une maison close, ce qu'on appelle une maison close, jusqu'à la loi de 1945 avec patronné par Marthe Richard qui a voulu la fermeture des maisons closes. Et du coup ces maisons closes qui existaient ont été saisies par l'État et cette maison là a été mise à disposition de l'AGEL, l'Association Générale des Étudiants de Lyon, que présidait à l'époque Paul Bouchet, qui deviendra plus tard un avocat très connu. Et donc là ont été logés des étudiants qui cherchaient des lieux. Et parmi ces étudiants, c'est là le suspense, je ne sais pas qui c'est qu'il y avait, il y avait Frantz Fanon. Frantz Fanon a vécu dans ce lieu-là. Donc j'espère qu'on va finir par avoir une plaque, non pas pour l'hôtel de Passe, mais pour Frantz Fanon, qui a vécu là, qui a passé 5 années à Lyon. En ce moment, on parle de lui, un film assez étonnant.
Il y a un film qui vient de sortir, qui est déjà très controversé.
Ben oui, mais ça fait rien. Mais voilà. Tout se tient, c'est pour ça que les... Vous voyez, condition de tous ces, on va dire, les damnés de la terre, c'est le cas de le dire pour Frantz Fanon. Hein. Tout se tient.
Et du coup, pour tout ce contexte, et en retour en 75, c'est pareil, c'est une forme, enfin la manière dont les filles sont entrées à l'église. Mes amis me le demandaient quand je faisais mes recherches et on en parlait beaucoup. Et j'aime la manière dont ça a été amené, je trouve que c'est important d'en parler. C'est que de base, en fait, les filles devaient être réfugiées à l'église de Saint-Bonaventure. Enfin, en fait, c'était un peu le leurre de l'histoire. Si vous voyez, c'est l'église qui est derrière, je sais pas si vous voyez à Lyon, c'est à Cordeliers, derrière le Monoprix.
Enfin, c'est la bourse.
Ouais, oui, c'est voilà. Une grande église du Moyen-Âge, c'est une des plus belles églises de Lyon, Saint-Bonaventure. Et bien, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc, il y avait la brigade des mœurs qui, évidemment, savait qu'il y avait une action qui se passait, puisqu'il y en a toujours qui parlent. Et donc, on avait volontairement donné l'information comme quoi on s'installerait à Saint-Bonaventure. Et on a obtenu à l'époque la complicité, c'est ça qui est amusant, des journalistes radio de Lyon. Il y avait à l'époque des journalistes qui restaient très longtemps. Robert Daran est resté, je ne sais pas, 30 ans correspondant, responsable du bureau de RTL à Lyon, par exemple. Et Claude Régent aussi, RMC. Et donc, ils ont été d'accord pour... ça les amusait, en fait. Ils ont garé leur voiture devant Saint-Bonaventure pour que la police croie vraiment que c'est là que l'événement est. Et en fait, les actrices du mouvement entraient par la grande porte et sortaient par une porte latérale et allaient rejoindre Saint-Dizier. C'est comme ça qu'on a... Voilà, on s'est bien amusé. Donc, il y avait, à l'époque, il y avait un côté festif dans les luttes. Hein. Je ne sais pas si c'est aussi vrai aujourd'hui, mais voilà, là, on était bien contents d'avoir réussi à leurrer la police des mœurs.
Et vous pouvez. C'est pas mal. Mais c'est cette complicité journalistique que je trouvais important de souligner. Surtout qu'il y avait aussi pas mal de tri, entre guillemets, qui était fait pendant un petit peu moins de 2 jours, là. Parce que tout journaliste n'était pas non plus bon, entre guillemets, à accueillir. Ce qui a fait qu'au fur et à mesure du temps où elles se sont réfugiées, les portes étaient de plus en plus fermées, les entrées de plus en plus sélectionnées. Et je trouve que ça montre bien ce parallèle entre ceux qui sont venus avec leur camionnette pour porter soutien et faire le leur, en fait. Et à l'inverse, quelques jours plus tard, il y a une forme de protection qui s'est créée. Et protection journalistique qu'on retrouve encore aujourd'hui énormément et qui résonne beaucoup et qui fait beaucoup sens, du coup, entre ce lien temporel. Mais du coup, les filles ont pu rentrer au sein de l'église. Et il y a eu une occupation de plusieurs jours, donc. Et là, c'est les questions qui reviennent aussi beaucoup, parce qu'on voit un peu des images d'archives qui ressortent. Et même là, il y a des archives dans le petit classeur là, qui sont présents ici à la salle de bain du père Louis Blanc. On voit un peu des photos, des images, et aussi un chant qui ressort. Enfin, il y a pas mal de questions sur comment était la vie en fait à l'intérieur de l'église. Et bah, vous y étiez à temps plein. Et toi, Daniel, tu as pu aussi y passer.
Je suis allée une fois.
Oui, ça compte. Ça compte, ça compte. Et du coup, il y a plein de questions qui se posaient. Même moi, quand on s'est rencontrés lundi dernier, je pense encore que les commerçants avaient une forme d'entraide de la nourriture. Vous m'aviez appris que non. Et parce que c'est un peu ce que moi j'avais lu.
Il y a eu quelques commerçants, mais moi je me souviens qu'il y avait des commerçants. Beaucoup de ces femmes étaient des grosses clientes, des traiteurs en particulier, du coin. Et donc les traiteurs ont continué à servir leur clientèle, mais c'était payant. Mm-hmm.
Voilà. Oui, c'est ça.
Il y a eu de la solidarité en plus, il y avait des gens. C'était très compliqué parce que, d'ailleurs, sur le film de Carole Raspoulos, là, on voit bien. Il y a un agglutinement de gens, de curieux qui viennent, peut-être d'anciens clients, je sais, ou de clients. Et puis il y a les commerçants, donc, puis les policiers, et puis c'était difficile. Mais oui, c'est un mouvement complexe sur lequel on ne sait encore pas tout. Hein.
Sachant que le film, il est déjà à partir de la quatrième journée d'occupation.
Oui, c'est très... oui, ça dit aussi beaucoup sur l'organisation qui a été mise. En place à l'intérieur, et la question donc aussi que tu avais posée lundi dernier de s'il y avait des assemblées ou des choses qui se passaient à l'intérieur, comment étaient organisées les filles en fait, parce qu'il y avait donc ces deux représentantes assez populaires entre Ulla et Barbara qu'on voit beaucoup dans le film de Kaoussopoulos, et Ulla qui a été décrite comme cette femme très belle, très forte, qui faisait de vos mots parfois même peur aux filles puisqu'elle avait un caractère très fort. Et Barbara, qui était l'image plus douce et plus souple, qui était presque celle qui se connectait plus avec toutes les filles de l'église. On voit aussi dans les livres respectifs qu'elles ont pu écrire après la différence et la divergence de point de vue qu'elles avaient sur toutes ces questions, toutes les questions qu'elles amenaient. Comment ça se passait un peu au sein de l'église par rapport à tout ça, et quelle organisation il y avait, parce qu'on voit aussi les photos avec les duvets, est-ce que vous pouvez en parler, il y a un peu des détails visuels pour tout le monde.
En fait, il y avait plusieurs femmes qui étaient un peu leaders, et je trouve que le bon document, c'est le livre qu'a fait Claude Jaget, Une vie de putain, parce qu'il a interviewé, je crois, 7 femmes qui étaient parmi les figures les plus impliquées. Donc, ces femmes-là ont accepté de parler, raconter leur histoire, même si elles ne donnent pas forcément leur véritable identité. Et puis, il y avait les deux figures médiatiques. Alors, comment le partage était fait entre les deux, je ne sais pas. C'est sûr qu'Ulla a été celle qu'on a le plus vue, que les médias recherchaient, et qui recherchait aussi un peu la lumière. C'était une très belle femme. J'espère qu'elle est restée, on n'a pas de nouvelles, j'espère qu'elle est restée une belle femme. Mais qui était... qui portait très haut le drapeau de la prostituée qui s'affirmait libre. Alors que Barbara était une femme beaucoup plus en souffrance, qui ne cachait pas ses souffrances. D'ailleurs, c'est elle qui est interviewée, parce que Lula n'a pas été intéressée apparemment par le film de Carole Raspoulos, alors que Barbara donne beaucoup son témoignage. Quoi. Et d'ailleurs, juste après... Barbara va quitter la prostitution. C'est tout autre parcours. Quoi. Et Barbara était plus, pour beaucoup de femmes, elle était un peu plus âgée que plusieurs. Et elle était un peu la grande consolatrice, la grande sœur consolatrice. Quoi. Donc elles avaient des rôles très différents, en fait. Je crois que dans le mouvement, elles ont été très complémentaires. Parce qu'il fallait aussi un leader porte-drapeau. Et puis, il fallait quelqu'un qui, dans un second plan, réconforte. Ça n'a pas été facile pour toutes ces femmes. On se le redisait ce matin, c'est-à-dire qu'il y a eu des femmes qui étaient vraiment dans une dynamique de d'émancipation, de recherche. Parce que beaucoup de ces femmes avaient fait des études. Elles avaient été étudiantes en mai 68, elles avaient occupé parfois les facs, etc. Donc celles-ci, elles étaient complètement... ça pourrait dire qu'elles étaient dans une dynamique féministe. Il y avait d'autres femmes qui, elles, étaient beaucoup plus soumises et qui étaient beaucoup plus sous l'emprise des réseaux mafieux. Quoi, hein. Et ce qu'on sait, c'est que parmi les femmes qui ont été dans l'Église, certaines ont été contraintes de venir, elles n'ont pas eu le choix. D'ailleurs, on le voyait bien, parce que le premier jour de l'occupation, il y a eu peut-être 150 femmes qui sont entrées, mais dès le soir, il y en avait la moitié. Et certaines avaient le droit de sortir, d'autres n'avaient pas le droit de sortir. Donc c'était des rapports complexes. Et nous, qui étions en soutien, on ne se mêlait pas de ça. On voyait, mais on se rendait compte qu'il y avait des choses qui étaient un peu gênantes.
Voilà. Oui, parce que c'était une grève, qu'il y avait des anti-grévistes, ouais, justement, qui étaient là pour dire à toutes les femmes, parce que ça a fait écho à Lyon, certes, mais ça a fait écho dans toute la France. Il y a eu des mouvements comme à Marseille, on a découvert aussi du coup Toulouse, Paris.
Montpellier, d'autres... Grenoble.
Avignon. Oui. Ouais. Rouen, apparemment, mais je n'ai pas trouvé le nom de l'église.
Ah, oui, ah ouais,
je cherche.
En Rouen, il n'y a pas eu d'église occupée, je crois qu'elles ont juste fait une grève.
Ah ok, okay. Parce qu'il y a eu une grève de soutien aussi à Nice, de 200 personnes.
Ok.
À Avignon aussi.
Oui, Avignon.
Plein d'endroits.
Oui, l'histoire reste à écrire. 50 ans après, on est loin d'être...
Travailler sur les archives avec moi, tu lis. Je t'en donnais pas.
Mais oui, il fallait vraiment des anti-grévistes. C'était, il n'y avait pas le choix. Il fallait faire grève et aucune prostituée ne devait travailler. Et c'est ce que, si tu avais pu souligner, que du coup, sur les papiers, quand on recherche un peu, on est autour de 150-200 femmes qui étaient au sein de l'église. On dit ça au niveau de la semaine. Mais en fait, il y avait environ 400 femmes qui ont pu passer. Parce que plein de filles aussi d'autres villes montaient ou descendaient à Lyon, enfin du moins elles venaient à Lyon pour venir voir le mouvement, pour être accompagnées en fait d'autres prostituées. Enfin, ça a fait un écho que certes il y a des mouvements ailleurs, mais aussi beaucoup de personnes sont venues, ce qui a créé donc ce grand passage et ce flux plus important que ce qu'on peut lire en soi comme premier chiffre quand on trouve sur les sur internet quoi. Voilà, ça c'est important aussi de souligner, et toute la curiosité de ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Fini Karosopoulos, où on voit tous ces visages d'hommes et de femmes et toute cette curiosité qu'il y a, enfin qu'il y avait du coup devant l'église, tous ces passants qui se demandaient ce qui se passait. Et il y a plein de, enfin quand j'ai fait des recherches d'archives vidéo, il y a plein de gens qui étaient pour en fait et qui disaient mais elles font ce qu'elles veulent, enfin qui soutenaient vraiment la cause. Moi, je n'ai plus vu de ce sens-là. Et ce qui a fait aussi ce que vous avez dit, que du coup, il y a un changement de vue, enfin de regard au travers des prostituées qui a été fait pendant plusieurs années dû à cette révolte-là en 75. Et ça, je trouve que c'est un marqueur aussi important parce que quand je parlais 75, je vous ai beaucoup demandé et l'après. Et du coup, après, est-ce qu'il y a quelque chose après? Et c'est un peu une question sans réponse. Enfin, il y en a, mais il n'y a pas de choses vraiment concrètes où il y a un après véritable. Et s'il y a un après, bah, c'est ça, c'est un changement de regard premier, un changement qui a évolué à ce moment-là, peut-être pendant un temps, mais qui du moins a quand même donné un changement à ce moment-là. Et oui, et après, moi aussi, je voulais qu'on en reparle sur le moment où du coup vous avez été délogé de l'église. Vous en parlez dans le film de Julie Ropart. Et ça m'a marqué ce que vous disiez, ce qui était 5h du matin, que vous avez très froid, que c'était un réveil que vous n'avez pas du tout aimé.
Ah oui.
Et que c'était aussi peut-être violent, je crois qu'il y avait des choses comme ça.
On ne s'y attendait vraiment pas.
Ouais. Ouais.
On ne s'y attendait pas. Parce que, encore une fois, la loi prévoit, alors je pense que c'est plus une coutume qu'autre chose, mais que l'affectataire de l'église doit être informé. Et normalement, les forces de police interviennent s'il y a demande de l'affectataire. On a vu ça encore l'année dernière, quand à l'église du Saint-Sacrement, des mineurs non accompagnés se sont réfugiés dans l'église. La préfète a demandé à l'archevêque, est-ce que vous voulez que je fasse donner la force publique? Et l'archevêque a dit non. Et la préfète a dû respecter. Donc là, il n'y a pas eu de respect de cette règle-là. Donc on ne s'y attendait vraiment pas. Et les femmes se croyaient protégées aussi dans l'Église. En plus, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est encore dans un contexte de France chrétienne où on a l'idée que l'Église, c'est un lieu d'asile. Aujourd'hui, ce serait moins vrai dans les consciences collectives. Et voilà, donc on est surpris, on est mal. Enfin, moi, je me suis... Je n'aime pas être réveillé comme ça, moi.
Et l'après aussi, du coup, vous êtes parti, ou vous l'avez décrit un peu, vous vous sentez comme une colonie de vacances, là. Vous avez dit que Véronique Gagès m'en avait parlé aussi, mettre.
Ah ben, alors là, je ne sais plus comment l'idée est venue. Tout à l'heure, on a parlé. Enfin, j'ai parlé de Claude Jaget, qui était un journaliste de Libération. Ce n'était pas le Libération aujourd'hui non plus, c'était un journal très militant, le Libération de l'époque.
C'était Lyon Libération.
C'était Lyon Libération. Et Claude Jaget était très militant, en fait. Il a été très proche, au-delà de son travail de journaliste. Et c'est pour ça qu'il a fait ce livre et que les femmes lui faisaient une grande confiance, quoi. Alors, est-ce que c'est lui qui a eu l'idée ? C'est pas impossible, je ne sais plus. Je ne sais pas. On s'est dit, bah, puisque M. Giscard d'Estaing, enfin, symboliquement, c'était plutôt Poniatowski, le ministre de l'Intérieur à l'époque, nous a délogés, et bien on va aller chez lui. Donc, on savait qu'il avait une grande propriété à Chanona, en Auvergne, et donc on est parti en car, joyeusement.
Le car des Parisiennes qui étaient venues aux états généraux de la Caution à la Bourse du Travail.
On est parti à Chanona, où on a juste vu la cour, parce que là, les gardiens qui nous ont vu arriver ont fermé les portes, mais on était quand même bien contents de nous. Puis en plus, ça fait le buzz, parce que à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait que la presse écrite et la télévision et radio. Mais c'est vrai qu'on en a parlé au plan national.
Et ben ça a fait écho. Et du coup, bah, Véronique Gagès, qui est dans les entretiens écrits sur le petit papier, me racontait un peu les mêmes émotions que vous. Elle avait vécu aussi comme un moment hyper amusant, presque. Et elle m'avait dit que oui, le portail était fermé quand ils sont arrivés, quand vous étiez arrivés, et que du coup, ils avaient lancé plein de flyers partout en criant leurs revendications, et qu'après, ben, en fait, elles étaient rentrées. Et, enfin, elle m'avait dit, moi, j'avais vraiment 24 ans, et c'est vraiment un truc qui m'a marqué, quoi, de partir faire ça.
Sonia raconte qu'il s'est mis d'y avoir des gens qui ont crié « Les flics à poil, les flics à poil !» Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est bon.
Parce que j'ai envie de croire.
Je ne m'en souviens pas, mais c'est pourquoi
pas. Et du coup, pour ce qui...
Mais j'avais une question à poser, mais j'attends juste un petit élément de plus sur cette idée de la, un peu du happening finalement de la révolte joyeuse et des moyens de militantisme joyeux, ce que défend beaucoup Carole Roussopoulos, ce que défendait beaucoup Carole Roussopoulos aussi, et aussi comment Lola Lévy, qu'on recevait ici la semaine dernière, qui nous en a raconté des pas mal avec les cheminots, etc. Mais dire que voilà, ce que nous racontait Lilian Mathieu ici même il y a deux semaines, c'était aussi, donc il y avait cette garden party chez Giscard, et puis il y a eu aussi
des collages.
J'ai entendu cette histoire d'élections anticipées où les travailleuses du sexe ont dit une passe gratuite.
C'est Ulla qui a dit ça, oui. Ulla avait promis une passe gratuite pour tous les votants, ouais.
Et du coup, je me permets d'interrompre là parce que on a. Enfin, merci encore à Monsieur Delorme, mais c'est. Je pense que c'est pas du tout une évidence, et moi je le sais parce que je reçois les visiteurs ici aux heures d'ouverture, donc la moitié de la semaine. Et ça n'est pas du tout une évidence pour les gens d'aujourd'hui de comprendre comment c'est possible que l'Église soutienne les travailleuses du sexe et les accompagne dans la vie. Enfin, en fait, ça vous l'avez déjà entendu, il y a toujours ce malentendu de « elles ont occupé l'Église » si elles occupaient l'Église contre l'Église. Et je pense que c'est une chance de vous avoir là pour peut-être nous donner un éclairage de la position de l'Église à ce moment-là, dont on voit qu'elle n'est pas uniquement le fait d'associations religieuses à Lyon, mais aussi partout en France, s'il y a eu d'autres...
C'était plus des occupations dans les autres églises de France, hein, okay. Par peut-être la chapelle Saint-Bernard, mais
oui, Saint-Bernard, je pense. Montpellier aussi, je crois qu'il y avait.
Montpellier, ils se sont fait installer dans la salle de catéchisme, et ils ont bien fait dire qu'il fallait pas qu'ils bloquent aucun office. Voilà. À la chapelle Saint-Bernard, d'ailleurs, ils ont dit on va assister à toutes les messes, on va être présente à toutes les messes pour bien montrer qu'on est là et en profiter pour conscientiser un peu.
Non, mais en tout cas, je trouverais bien d'avoir votre éclairage sur ce contexte-là moral et intellectuel, parce qu'on a eu ici même la version du sociologue à ce sujet, avec une lecture forcément depuis une parole qui n'est pas une parole cliniquale. Et donc, je trouverais ça super de vous entendre aussi nous rappeler ce contexte de pensée qui a fait que ça s'est produit.
Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'Église de cette époque, l'Église catholique de cette époque, c'est l'Église qui est influencée par le Concile Vatican II qui s'est déroulé entre 1962 et 1965 et qui est un concile, c'est la réunion de tous les évêques du monde entier. C'était la première fois qu'il y avait des évêques de tous les continents dans l'histoire de l'Église. Et c'est un concile qui veut retrouver la simplicité de l'Évangile et la proximité avec les plus pauvres et qui veut œuvrer à la paix mondiale. Et en France, comme dans beaucoup de pays, il y a eu une adhésion très forte à cette idée-là. Et finalement, c'est une église qui est assez progressiste, on pourrait dire, si on prend les catégories classiques, qui a le souci de la proximité avec les plus pauvres, avec les exclus. C'est l'époque où la théologie de libération se développe en Amérique latine et ailleurs. C'est l'époque des combats, alors c'est pas l'église catholique, mais c'est Martin Luther King des États-Unis, les Noirs américains, avec les églises noires très impliquées dans les combats. L'église catholique était plus impliquée en Amérique latine avec les luttes pour les paysans. C'est une église qui est très solidaire des migrants, sans doute même la force la plus importante, même s'il y a d'autres groupes, hein, il y a les maoïstes, il y a les anarchistes, etc. C'est une église, ouais, si on veut encore utiliser des catégories plus faciles, une église de gauche, ce qui n'est plus le contexte actuel. Ensuite, c'est une église qui privilégie ce qu'on appelait les mouvements d'action catholique, et notamment les mouvements d'action catholique ouvrière, qui étaient très importants, la jeunesse ouvrière chrétienne, masculine et féminine, l'action catholique ouvrière. Et le mouvement d'uni de l'époque, c'est pour ça que je dis que c'est plus le même qu'aujourd'hui, le mouvement d'uni de l'époque, il est né de l'action catholique ouvrière. Alors ça dépendait des régions. À Lyon, les gens étaient très dans cette dynamique de solidarité avec les plus pauvres et de soutien aux actions collectives. Au plan national, ça freinait beaucoup plus. Aussi bien le fondateur, qui était encore vivant, le père Talvas, qui avait peur que justement on aille vers la revendication d'une professionnalisation de la constitution. Et puis il y avait son secrétaire général Colette Villiers qui elle était très hostile au mouvement. Mais Lyon avait réussi à imposer sa vision. Et puis je pense que s'il y a eu aussi dans d'autres villes, c'est parce qu'il y a des endroits où il y avait aussi des sections du mouvement d'unis, notamment à Saint-Bernard, à Paris. Donc c'est une église qui à l'époque, en tout cas l'église qui est dominante aussi bien au niveau des évêques que du clergé. C'est une église qui est plutôt progressiste et ouverte. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure différent où il y a des retours identitaires et une église beaucoup plus conservatrice qui n'est plus du tout dans ce dialogue avec la société. Pas plus du tout. Beaucoup moins que la nouvelle. Je pense à autre chose, mais parce que cette église-là, donc elle était présente dans les prisons, elle était présente dans tous les lieux de... un peu de fracture. Pour vous qui avez connu la lutte contre le sida, il y avait chrétien sida un peu plus tard, quoi, hein. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ça existerait. Et puis alors, oui, c'est aussi une dimension œcuménique très importante. C'est que catholiques et protestants traditionnels, pas les églises évangéliques qui ne sont pas aussi importantes qu'aujourd'hui à l'époque, mais la Fédération protestante de France est très impliquée. Par exemple, pour ce qui est des migrants, à Lyon, avait été créée l'ACFAL, l'Action de coopération franco-algérienne du Viennet, par des catholiques et des protestants. La CIMAD était protestante, mais il y avait des catholiques. Voilà. Donc c'est une époque qui, malheureusement, bon, c'est comme ça, on ne va pas pleurer sur le passé, n'existe plus vraiment aujourd'hui en France, en tout cas.
Mais il y a un moment, ça a changé à Lyon, quand même, parce que si vous vous souvenez, pour les grévistes de la faim, qui se sont réfugiés donc, à deux reprises dans les églises, ils ont été expulsés. Donc si vous me dites qu'il fallait l'accord du...
Oui, mais là, c'est là que le curé n'a pas voulu.
Ça a été très compliqué pour qu'il puisse rester à Saint-André, finalement, dans le 7e. Mais ils ont fini quand même par être expulsés. C'était pas la même mouvance.
C'était pas les mêmes curés. Ça, le curé a du poids dans l'Église catholique. Hein. Moi, j'ai accueilli les grèves de la faim d'immigrés quand j'étais curé. Enfin, bon. Bon, vous avez plein de choses à dire, moi.
J'ai dit vous-même, vous avez fait les grèves de la faim. J'étais dans vos albums photos aujourd'hui. Les archives municipales. Je sais, je dis rien. Hein.
Moi, j'ai vu une photo de vous enchaînée également.
C'était avec le garde, ça. Ouais.
Et ouais, t'es... c'est ta soirée. Hein. Ben on va poursuivre chronologiquement avec l'après. Cybèle, est-ce que tu veux revenir sur le rapport Pinault ?
Le rapport Pinault. Eh bien, en fait, au moment d'expulser les prostituées des églises, il y a eu déclaration de la part du porte-parole du gouvernement qu'il y aurait un monsieur prostitution nommé et qu'il y aurait une commission qui entendrait les personnes concernées, qui fournirait des recommandations au niveau législatif et au niveau de l'encadrement ou non-encadrement des choses. Et donc, au mois de juillet, on apprend la nomination de Guy Pinault, un magistrat de la Cour d'appel, et qui se présente comme quelqu'un plutôt de l'écoute, de l'écoute de la situation, assez ouvert. Et il fait des audiences dans lesquelles il va recevoir vraiment un peu toutes les personnes qui ont été impliquées dans le mouvement, des personnes plutôt opposées, des personnes concernées, en divers lots, parfois des personnes réinsérées qui n'avaient pas tout à fait la même vision que des personnes qui étaient en activité. Il y a eu plusieurs délégations, plusieurs rencontres, surtout à l'automne 75. Et entre-temps, le mouvement militant continuait, c'est-à-dire qu'il y avait eu donc les états généraux fin juin, début juillet, mais il y a eu ensuite à l'automne, des assises nationales à Paris, et où ils ont continué à essayer de s'organiser. Et le rapport de Pinault n'arrivant pas tout de suite, forcément, ils disaient « Mais où est-il ? Et que fait-il ? Et qu'est-ce que ça va donner ?» Les gens avaient très très peur que leurs paroles ne soient pas prises en compte. Et donc, en décembre 75, en tout cas c'est la datation qui est sur le rapport de Pinault, il aurait été déposé au niveau du Conseil des ministres pour examen en Conseil des ministres. Et en janvier, on a su que il avait été remis, mais il devait être examiné imminemment sous peu. Et en fait, le imminemment est devenu jamais. Et donc, il savait qu'il y avait l'existence de ce rapport, mais on disait oui, il va être vu. En fait, il y a des moments où des gens ont commencé à obtenir des copies de ce rapport, et la presse a obtenu des copies. Mais jamais, d'ailleurs, les femmes prostituées ont fait des copies pour les envoyer aux députés, pour dire pousser à l'Assemblée nationale pour faire quelque chose. Et il n'a jamais été examiné, il a été de fait enterré. Et ce rapport était quasiment aligné parfaitement avec les revendications qui avaient été portées par les femmes prostituées, donc qui ont continué à s'organiser en plein de collectifs, avec un collectif plus général des femmes de France qui a produit tout un carnet de revendications, une trentaine de recommandations, revendications. Et la plupart de ces revendications, donc, elles se disaient prêtes à payer des impôts, elles se disaient, elles demandaient de plus avoir d'enfermement, d'avoir des considérations pour les personnes qui souhaitaient arrêter, qu'il y ait des amnisties sur les amendes ou les retours d'impôts pour les personnes qui souhaitaient arrêter, pour éviter qu'elles se retrouvent coincées dans ce système d'endettement lié à l'État. Et donc, il y avait des revendications de confidentialité, de respect de la vie privée, d'égalité avec les autres citoyens, citoyennes. Et le rapport Pinault disait, grosso modo, c'est à peu près ça qu'on recommande, qu'on pense qu'il est bien, qu'il y ait une taxation à peu près normale, et que les personnes ne soient pas plus marginalisées. Donc, on était très proche de ce qu'on appelle maintenant la dépénalisation, mais qui à l'époque s'appelait l'abolitionnisme. Donc, la non-création d'un statut particulier, mais l'accès aux droits communs qui existent déjà. Et donc, les personnes ont été assez déçues, parce que toute la mobilisation qu'elles essayaient de faire à ce moment-là, c'était de dire regardez le rapport Pinault, et maintenant, il faut qu'il y ait des changements qui a lieu, parce que la seule victoire qu'elles avaient eue, mis à part le fait d'avoir pu exister en tant que femme devant l'opinion publique, c'était celle de l'amnistie des peines de prison, parce qu'il y avait des peines de prison pour les personnes qui recevaient plusieurs amendes. Ils ont commencé à émettre des peines de prison, donc c'est aussi un des déclencheurs de la révolte de Saint-Mizier. Il y a eu l'amnistie pour en tout cas des personnes lyonnaises, parce que dans d'autres villes, il n'y a pas eu cette amnistie nécessairement, et les PV continuaient à pleuvoir malgré le rapport, les audiences pour le rapport Pinault. Et ils avaient dit on va faire une trêve, et en fait il n'y avait pas de trêve du tout, ça continuait à se faire. Donc il y avait assez peu de victoires, et donc à part cette amnistie pour certaines lyonnaises, il n'y a pas eu d'autres résultats concrets dans la foulée en 76.
Je rebondis sur les celles qui avaient des peines de prison qui étaient données aussi, étaient protégées du coup au sein de l'église. C'est-à-dire qu'elles restaient, elles étaient vraiment. C'était vous ne sortez pas de l'église et vous restez là et il y avait une protection entre.
Alors en théorie, il me semble que les femmes qui avaient. En tout cas, les trois femmes qui avaient reçu des condamnations, mm-hmm. des significations d'aller à la prison le lundi, elles avaient été cachées non pas à l'église mais ailleurs.
Ah oui, oui.
Par contre, pendant que vous étiez à l'église, il y a une dizaine de personnes, une dizaine de femmes supplémentaires qui ont reçu des significations de peine de prison. En tout cas, c'est ce que les personnes rapportent dans les différents ouvrages qui ont été,
oui, c'est ça.
Qui ont été publiés après, et dans la presse locale aussi.
Et retour encore sur le fameux après, il y a j'avais commencé à faire mes recherches, et que je parlais des conditions de vie d'une prostituée et du fait que si elle vivait avec quelqu'un, cette personne était accusée automatiquement d'être proxénète. Un ami m'avait demandé, mais du coup, en fait, comment elles font pour vivre, avec vous? Et tu avais souligné cette phrase si belle, avant 75, c'était pas possible de vivre avec quelqu'un. Et ça fait partie des évolutions, quand même, maintenant. Et.
Oui, c'est arrivé plus tardivement qu'on a possibilité maintenant de vivre avec quelqu'un à condition que cette personne puisse justifier de ressources suffisantes pour vivre elle-même. C'est un ajout qui a été fait au code pénal dans les années 90, à ce que je sache, mais c'est un peu dur de retrouver la date exacte vu comment l'ancien code pénal était fait et tenu à jour. Et donc, grosso modo, maintenant, la règle de base qu'on se donne, nous, en tant que travailleurs et travailleuses du sexe, c'est que notre conjoint ou notre colocataire doit gagner plus que nous, disons, pour éviter les problèmes. Et garder des finances les plus séparées possibles pour être bien montrer que cette personne-là ne reçoit pas, ne bénéficie pas de notre prostitution.
C'est pas un jugement cache-compte.
C'est pas un julio casse-croûte.
Ouais.
Ça se dit plus maintenant, Daniel, mais.
C'est ce qui se disait à l'époque.
Mais maintenant, nous, nos proxénètes préférées, ça reste nos animaux domestiques. On a des proxénètes de croquettes. Parce que forcément, eux, ils sont complètement casse-croûtes sur nous. Et... Donc, on avait fait une action d'ailleurs en 2020, lors de la manif en ligne, étant donné que nous étions confinés, l'anniversaire de la loi de 2016. Où on a mettait en valeur nos différents animaux domestiques qui sont parmi nos plus grands proxénètes, à part la SNCF, Décathlon, l'État, et quand même un certain nombre.
Est-ce que tu veux parler de ton petit jeton que tu donnes aussi?
Ben, j'ai un badge, mais j'en ai pas de copie ici.
Ah, non.
Je suis connue surtout pour mes t-shirts, hein, d'habitude.
Parce que oui, c'est vrai.
Aujourd'hui. Ouais.
C'est la première des choses que j'ai regardées.
Tu veux juste commenter justement?
Alors j'ai fait ce chandail, ce t-shirt pour l'occasion d'une rencontre de plaidoyer avec Elisabeth Moreno, qui était donc ministre de l'égalité pendant quelques mois. Ça change tellement rapidement, j'ai de la difficulté à suivre tout ça. En fait, on n'a pas pu le faire en personne, et de toute façon, comme toutes les ministres des droits des femmes, à l'égalité, finalement, le jour J, on ne les rencontre pas, on rencontre que le cabinet, parce que les personnes vraiment concernées, travailleuses du sexe, c'est pas à elles qu'on parle, ça va être à Médecins du Monde, ou à Amnesty, ou à d'autres associations, le planning familial, qui arrivent à médier un petit peu et avoir accès à ces endroits de fémocrates, on va dire. Mais donc nous, on nous donne les conseillers. Effectivement, on a cette blague parce qu'il y a l'expression personne en situation de prostitution qui est beaucoup utilisée dans le milieu médico-social, éducatif, etc., travail social. Mais c'est une fiction lexicale parce que personne ne s'appelle soi-même comme ça. Ça a été calqué sur le personne en situation de handicap. Pour mettre l'accent sur personne et l'aspect situation, dans le cas de la prostitution, c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est essentiel à la personne. Donc elle peut en sortir, pour mettre l'accent sur la sortie possible de cette situation, alors que pour le handicap, c'était pour inclure des personnes qui sont temporairement handicapées, mais ne le sont pas forcément toute leur vie, quoi. Et donc, personne en situation de politique, voilà, c'est parce que nous, on donne souvent l'exemple de la personne en situation de travail social ou la personne en situation d'infirmière. On remet le fait que ça a très peu de sens pour nous, cette expression. Et donc, je trouvais ça génial de penser à sauver les personnes en situation de politique parce que, voilà, quand on est pute, on cherche parfois à se députer, mais être député soi-même, c'est peut-être un petit peu plus trash. Je sais que mon mari m'a dit je ne te suivrai pas jusque-là.
Allez, y penser.
Il y aura un autre t-shirt dans la foulée. Mais pour le badge, il s'agit d'un petit badge où on a deux bières qui s'entrechoquent. On s'est écrit proxénète de Cybèle l'Espérance. Mm-hmm. Et article 225.5, alinéa 2 du code pénal. Donc si je vous ai offert à boire, une consommation, un litre, n'importe quoi, vous devenez mon proxénète parce que vous bénéficiez de ma prostitution. Et donc je vous donne ce badge que vous avez obtenu. Donc vous pouvez pas me l'acheter, il faut vraiment que je vous offre quelque chose. Et moi je l'ai fabriqué surtout dans le contexte où je rencontrais pas mal d'attachés politiques, de personnes, de députés, de journalistes, et on se rencontrait souvent dans des cafés parce que j'étais de passage à Paris. Et donc je payais la première tournée, payais la seconde, je réussissais à négocier ça comme ça. Alors que normalement on ne paye pas quand on est interviewé, quand on a ces rencontres, ils ont leur budget. Mais voilà, et là ça me permettait de le donner au passage pour dire, vous voyez tout ce que je vous ai dit, c'était théorique, maintenant c'est personnel. Mm. Parce que vous, maintenant vous êtes proxénète, au sens des aberrations du code pénal. Mm. Voilà, j'aime bien le côté festif, justement ludique de ça. Il y a pas mal de collègues qui veulent refaire la même.
Je voulais que tu en parles du coup.
Bah, moi, même mes libraires sont trop contents de l'afficher. Ils sont là, ils se baladent en ville avec leur sacoche.
Et est-ce que on peut apporter un peu certaines définitions du terme de proxénétisme aussi en France, parce qu'il est hyper vague maintenant, et même au terme de l'abolitionnisme qui a vachement évolué depuis 1975. Je serais peut-être un peu.
Peut-être commencer par l'abolitionnisme.
Ouais.
Le terme abolitionniste, je pense qu'il a d'abord été appliqué au mouvement de solidarité avec les esclaves au XIXe siècle aux États-Unis, en Angleterre, etc., et en France aussi d'ailleurs. Les abolitionnistes qui étaient ceux qui étaient pour la libération des esclaves alors que l'esclavage était. Et puis il est passé progressivement dans le langage des organisations s'occupant de...
La traite des blanches.
Non, c'est ça. C'est via, je pense que c'est les équipes d'action contre la traite des femmes qui, ont dû se présenter comme abolitionnistes. Mais tout à l'heure, vous l'avez dit, dans les années 70, le terme, on hésitait parce qu'il pouvait avoir le côté il faut abolir tout ce qui est ségrégatif à l'égard des personnes prostituées. Donc c'était abolir tout ce qui...
La réglementation.
Aujourd'hui, le sens est différent, puisque l'abolitionniste, ce sont ceux qui veulent abolir complètement la prostitution, comme l'esclavage a été aboli, considérant qu'il n'y a pas de travail du sexe libre. Et c'est ce qui est devenu le mouvement d'Uni. Le mouvement d'Uni, dès l'origine, il voulait soutenir la sortie des personnes prostituées le voulant, mais il n'a jamais imaginé, en tout cas à sa fondation, la pénalisation des clients. Ce qui est nouveau avec le mouvement d'Uni actuel, c'est qu'il milite très très fort pour la pénalisation des clients. Alors c'est la prohibition en fait, pensant que en pénalisant le client, eh bien, on fera disparaître la prostitution. Mais vous avez plus réfléchi que moi à cette question.
Bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'on essaie de passer comme message d'un point de vue syndicaliste. Nous, on dit que les revendications actuelles du mouvement militant des travailleurs et travailleuses du sexe sont très semblables aux revendications des abolitionnistes originaux. La seule différence, le seul point de discorde qui émerge d'ailleurs dans les mouvements militants postérieurs à 75, hein, dès le départ, même entre Paris et Lyon, il y avait cette question de est-ce qu'il y a un statut ou il n'y a pas de statut. Barbara en parle dans son livre notamment. Parce qu'à partir du moment où on dit on veut payer des impôts, on veut rentrer dans un statut, il y avait toujours l'espèce de crainte que ça devienne quelque chose qui emprisonne les gens dans la prostitution au lieu de leur permettre de pouvoir quitter facilement. Et donc il y a toutes ces personnes qui disent non, on veut juste que ce soit un acte privé dont on ne considère pas forcément le revenu dans le PIB. Ou, voilà. C'est toute cette question-là de dire ok, il y a absolument aucune trace de ça dans les lois et donc aucune pénalisation possible qui pourrait empêcher des personnes qui sont en redressement d'impôts de se réinsérer. Donc le but est de permettre la liberté de se prostituer, et c'est comme ça que je présente Barbara, elle dit c'est la liberté de se prostituer, c'est surtout la liberté d'arrêter. Et la crainte, c'est beaucoup autour de ça, le statut, est-ce qu'il ne va pas rendre les choses plus acceptables et ralentir la sortie des personnes qui voudraient sortir. C'est peut-être ça la grande différence de philosophie, je dirais, entre l'abolitionnisme de cette époque et le syndicalisme actuel. Nous, on parle pour la pénalisation du client, on va sûrement parler de néo-abolitionnisme ou de néo-prohibitionnisme. Mais ça devient dur. Les gens mélangent beaucoup ces concepts-là parce qu'en plus, il y a pas mal de travailleurs du sexe actuels qui sont des abolitionnistes du travail. Et donc, je veux dire, d'un point de vue anticapitaliste, c'est compliqué. Et surtout, on a des gens qui viennent nous expliquer « Mais non, l'abolitionnisme, c'est bien, c'est l'abolitionnisme carcéral. » Et bon, voilà. Non.
C'est les fameuses phrases qu'on avait entendues au théâtre de l'Élysée il y a 2 semaines. J'en ai marre qu'on me demande pourquoi j'ai fait ce choix d'être travailleuse du sexe, ou si j'avais un choix à faire, ce serait pas de travailler du tout, quoi. Et moi, ça m'a marqué, et je trouvais ça hyper. Oui, en fait. Je pense que moi aussi, finalement, je pense que je travaillais pas non plus. Et par rapport au terme du proxénétisme.
Oui, pour le proxénétisme, c'est assez scandaleux de lire cette section du code pénal, que quand on commence à le lire, on se rend compte qu'un proxénète, pour être proxénète, n'a ni besoin d'utiliser la contrainte, la menace, la violence. Ce sont des facteurs qui sont aggravants, mais ce ne sont pas des facteurs qui sont qualifiants du proxénétisme de base. Là, ce serait plutôt la traite des êtres humains qu'on qualifierait avec la menace, la contrainte, la violence, le dol, le mensonge. Ce qui qualifie le proxénétisme, c'est le fait d'aider, c'est le fait de protéger, c'est le fait de faciliter. Alors quand on dit protéger, ça peut vouloir dire vous avez un copain, une copine qui exerce et qui dit ce soir à telle heure je suis à tel endroit avec telle personne, vérifie si j'en ressors bien à la fin, et si je ressors pas, appelle les flics, fais X choses. Nous on appelle ça un backup dans notre langage, et le backup du coup c'est du proxénétisme dans la protection, c'est dans l'assistance, et donc c'est une des formes de proxénétisme qu'on fait, qui est une forme d'entraide. Ça veut dire aussi que dans le proxénétisme, bénéficier de notre argent, donc je voulais donner l'exemple, la ligne à 2 avec mon petit badge, mais à partir du moment où quelqu'un sait qu'on exerce la prostitution, que c'est notre revenu principal, devrait refuser de nous vendre quoi que ce soit, de bénéficier de notre argent de quelque façon que ce soit. Et donc tous les services qui pourraient être utilisés par des personnes, que ce soit de l'aide à la secrétariat, faire un site web, donc en payer quelqu'un de façon autonome en disant je choisis ce prestataire pour me rendre un service, le prestataire lui est complètement sous la loi sur le proxénétisme. Et c'est encore plus marquant pour le logement, parce que pour ce qui est du logement, tolérer que la prostitution s'exerce dans un logement que l'on loue, qu'on détient, que l'on gère, juste la tolérance de l'existence de cette prostitution est considérée comme du proxénétisme. Et la seule défense qu'un propriétaire peut avoir, c'est « je ne le savais pas ». Donc s'il y a une accumulation de preuves qui amène qu'il aurait dû le savoir, parce qu'il y a des voisins qui lui ont dit, ou parce qu'il y a l'ex-conjoint qui lui a dit, ou parce qu'il y a des clients éconduits, ou des harceleurs de cette personne qui ont prévenu le propriétaire, le propriétaire aurait dû rapidement prendre des dispositions pour expulser cette personne de son logement. Et on a donc des discriminations au logement, on suspend le droit au logement pour ces personnes, et c'est chapeauté par le code pénal. Et on voit bien quand on lit les articles de loi, les articles du code pénal sur le proxénétisme, que le but n'est pas la protection des personnes contre l'exploitation, qu'on est plutôt dans une situation où on encourage des formes d'exploitation, parce que du coup, comme toute aide, assistance est criminalisée, la personne prend un risque et va donc monnayer ce risque, et donc créer des situations de dépendance envers d'autres personnes. Et le but, c'est de rendre l'exercice le plus compliqué possible et d'isoler la personne, mais pour qu'elle cesse d'exercer parce que c'est trop difficile de le faire en sécurité. Et on pourrait dire que les personnes qui se retrouvent dans des situations où elles sont agressées parce qu'elles n'ont pas pu mettre des systèmes de sécurité entre elles ou se travailler de chez elles ou travailler à plusieurs dans le même appartement, ce qui est complètement interdit, bah, ces personnes-là, si elles sont victimes de violences, en fait, ce sont des victimes collatérales de l'idéologie qui dit bah, « on ne veut pas que ce soit trop facile quand même ». Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et voilà. On veut éviter que les gens le fassent. Et c'est des formes, donc, moi j'appelle ça de repénalisation. On a le redressement fiscal qui existe toujours. On a les arrêtés municipaux, qui est une forme de repénalisation de nos jours. Le proxénétisme d'entraide ou au niveau du logement, on estime que c'est environ la moitié des condamnations pour proxénétisme en France. Donc, on n'a pas forcément de la dimension d'exploitation présente. Et en repénalisation, on a parfois bah, des personnes qui prennent donc pour proxénétisme mutuel ou pour travail dissimulé. Donc qu'elles ont finalement des amendes beaucoup plus imposantes que celles qu'aurait le client.
Et je trouve
vous dites proxénétisme mutuel, c'est des TDS qui cèdent entre elles, ouais. Et qui du coup sont accusées. Enfin, un peu doublement.
Ouais, dans les termes qu'on utilise, qu'utilisent les juristes sur la doctrine, c'est pas écrit comme ça dans le code pénal, mais on va parler de proxénétisme d'entraide. Ouais. Il y a tout récemment des avocats qui gravitent autour du syndicat du travail sexuel, duquel je fais plus trop partie, mais je voulais quand même mettre mon t-shirt. Mais il y a un de ces avocats qui nous a fait remarquer que à la Cour de cassation, maintenant, il y avait eu un peu de nuance dans la jurisprudence. C'est-à-dire que si l'entraide avait vraiment une visée de sauvegarde de la dignité humaine, elle serait tolérée entre personnes qui sont elles-mêmes travailleuses du sexe. Par contre, c'est pas de la sauvegarde de la dignité humaine que de louer un Airbnb et d'être trois dedans. Il y a nécessairement quelqu'un qui l'a loué et cette personne-là sera accusée de proxénétisme aggravé et il y a régulièrement des condamnations.
Est-ce qu'on peut vous inviter à conclure d'une manière qui peut-être ouvrira la discussion pour après, mais voilà, je tiens à aussi souligner qu'il y a des trains à prendre, qu'il y a un espace qui est petit et qui fait très chaud. Ouais, voilà.
Et du coup, je vais montrer l'édition aussi pour terminer, que j'ai fait en collaboration avec mon ami graphiste Hugo juste ici. Et c'est la petite édition qui va retracer nos entretiens qu'on a fait du coup avec ces actrices de l'occupation, enfin du refuge de 75. Ça se constitue comme ceci. Il y a plusieurs petits entretiens et c'est libre. Enfin, vous pouvez vous servir. Il y a une vingtaine d'exemplaires faits avec nos petites mains. Si on avait pu en faire plus, on l'aurait fait, mais on a déjà fait 20 exemplaires.
Vous voulez pas qu'on les mette à 1 euro au moins pour payer un petit peu la production et vous inviter à en produire d'autres? Enfin, moi, je trouve que ce serait logique avec le fait qu'on inclut toutes ces réalités dans des économies qui sont réelles, quoi.
C'est vrai. Ouais.
Ou à prix libre.
Ou à prix libre, et ça veut dire...
Sinon, je les achète pour tout le monde et vous êtes tous en programme.
Hier, nous voulions dîner avec toi. T'étais pas là, mais on espère que ça sera pour une autre fois. Négocier, oui, 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 les PV, non, 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 et non, peine de prison, et oui, et non. Négocier, oui, 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 les PV, non, non, non.
Merci pour votre écoute. Pour finir, on a entendu la chorale de Lens Ballion qui interprétait des chants de l'occupation de Saint-Nizier en 1975. Les autres épisodes du programme « Ça commence souvent par des problèmes », une proposition de La Salle de Bain, sont à retrouver sur du radio.